pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez depuis ici même le Jardin des Tuileries pour la 18e édition de Jardin, Jardin aux Tuileries. Jardin avec un S, puisque ce sont des jardins aménagés dans ce jardin historique des Tuileries. Nous sommes sous le mail, comme nous l'a expliqué Caroline Molly à l'occasion d'un entretien qu'elle nous a accordé pour parcourir en détail « À l'ombre des arbres », son dernier ouvrage qui résonne avec plus de 30 ans avec le précédent. Nous allons aujourd'hui évidemment continuer à converser autour du végétal, mais introduire aussi un autre règne, celui de l'animal. Ça va être une émission sauvage, c'est ce que nous ont promis nos intervenantes et nos intervenants. Végétal, animal, faune et flore, les jardins urbains, ressources pour une ville animale. C'est le thème de cette émission qui est une émission Cité Verte Europe. Cité Verte Europe, c'est un programme financé par l'Union européenne et qui est représenté en France par Valor. Valor, en quelques mots, c'est l'interprofession du végétal, de la fleuristerie, des fleurs, c'est plus joli, et du paysage. Voilà, c'est dit. Grâce à ce programme, nous pouvons aborder un certain nombre de sujets pour une ville nature. Et en l'occurrence, végétal, animal, faune et flore, les jardins urbains, ressources pour une ville animale, nous allons en parler avec trois intervenants. Tout d'abord, Clémence Laurendeau, vous êtes responsable du programme Refuge à la LPO France. Bonjour Clémence.
Absolument, bonjour.
Ça n'est pas l'ordre protocolaire, mais c'est une question de réglage. Nous avons ensuite à vos côtés Fabien Kouachi, vous êtes directeur des opérations de sensibilisation de l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Et enfin, à ma gauche, Léa Mosconi, vous êtes architecte. Vous présidez la Maison de l'architecture d'Île-de-France et vous êtes co-commissaire de l'exposition Paris Animal, qui est actuellement au pavillon de l'Arsenal jusqu'au 3 septembre, le pavillon de l'Arsenal, le musée d'architecture de la ville de Paris. Et je présente ici cet ouvrage et cette exposition qui nous ont servi de déclic pour cette émission. Paris Animal, la ville animale. Évidemment, nous ne pouvions pas passer à côté de cette actualité lorsque l'on parle de ville nature. Alors, la ville animale, on le voit très bien dans votre ouvrage, Léa. Il y a une relation qui est à la fois plaisante, aussi parfois une aversion. Elle a évolué au cours du temps entre les êtres humains, les citadins et le règne animal dont, quelque part, nous faisons partie. Et ça nous interpelle tout d'abord sur l'état du tissu du vivant. Le 22 mai, il y a quelques jours, avait lieu la Journée internationale de la biodiversité, la diversité des espèces, la diversité des gènes et des milieux de vie, des habitats. On y reviendra pour la partie architecture probablement. Cette biodiversité, on le sait, mais il est important de le rappeler, est menacée. Ça n'est pas une érosion lente comme une falaise, mais un effondrement véritable. Et il y a un certain nombre d'actions dont la LPO, auxquelles la LPO contribue, comme la fête de la nature qui s'est déroulée il y a quelques jours, pour nous rappeler à quel point cette biodiversité, elle est tout autour de nous et qu'en oubliant cette proximité, nous nous oublions nous-mêmes quelque part. Et c'est d'abord sur ce thème que je voudrais vous entendre, Clémence, puis Fabien. Quel est l'état de la biodiversité aujourd'hui ?
Alors, ce n'est pas une nouvelle particulièrement réjouissante, mais en effet, aujourd'hui, la biodiversité dans le monde vit ce qu'on appelle une extinction de masse, la sixième. Cette extinction, elle est conséquente. Si on reprend juste quelques chiffres rapidement de l'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité, en quelque sorte. Et l'IPBES a rappelé tout récemment qu'un tiers des espèces de vertébrés sont menacées de disparition complète d'ici 2040. 2040, c'est demain. Et si on se rapproche un tout petit peu de France et d'Europe, pour parler d'espèces plus proches de nous, de la nature de proximité, il y a une baisse moyenne de près entre 30 et 40%, un tiers des populations d'oiseaux sont menacées et en cours de disparition. Et pour parler végétal également, 42% des 454 espèces d'arbres endémiques d'Europe sont menacées de disparition également. Donc la santé de la biodiversité n'est pas merveilleuse, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on connaît les causes oui. de cette érosion. Et donc, on peut agir.
On peut agir. Alors là, vous parlez de la diversité des espèces ou des effectifs au sein de chaque espèce ?
Je parle bien de la diversité des espèces.
D'accord.
En effet, il n'y a pas forcément de bonnes nouvelles sur les effectifs espèce par espèce, mais ça se voit quand on suit des populations d'espèces spécifiquement.
Et je pense qu'on y reviendra, notamment en ville. Tout à l'heure, alors, l'IPBES, pour les non-experts, c'est la plateforme intergouvernementale de scientifiques pour la biodiversité. Effectivement, c'est ce qu'on appelle communément le GIEC de la biodiversité. Fabien, de votre côté, vous dirigez cet observatoire d'apidologie en lien donc avec les abeilles. Comment se traduit pour vous cet effondrement de la biodiversité ? Qu'est-ce que vous avez à en dire ?
Alors, si on va un peu plus loin que le prisme de la ville, c'est aussi un peu la thématique, on constate exactement les mêmes choses que l'IPBES, forcément. Les rapports sont les mêmes. La vitesse d'extinction de grand nombre de pollinisateurs, puisqu'on parle des abeilles, mais c'est un prétexte pour parler de l'ensemble des pollinisateurs, sont en chute libre. Donc on n'est pas encore en train de parler d'extinction de masse. C'est quelque chose qui est en train de s'approcher massivement. Mais on est plutôt sur un effondrement des colonies assez important. On s'approche de cette extinction de masse, qui serait possiblement en plus la première extinction de masse qui serait d'origine non naturelle, liée à l'activité humaine.
Oui, les précédents, c'était la cinquième, les dinosaures, et probablement une météorite, c'était ça ?
Voilà.
Alors, les trois premières, elles sont difficiles à déterminer.
À identifier.
Mais grosso modo, à chaque fois qu'une extinction de masse a lieu, vous avez à peu près 80 à 90% des espèces vivantes qui disparaissent. Sauf que, comme ça se fait sur des millions et des millions d'années, la nature est extrêmement résiliente et donc elle arrive derrière à se reconstituer, voire même à se reconstituer davantage. Là, on n'en est pas encore là.
Oui, là, ça va très très vite, c'est vertigineux, cette chute de la biodiversité. Alors, on a parlé de chiffres macro, et ça c'est important pour planter le décor, entre guillemets. Effectivement, notre propos aujourd'hui, c'est de nous intéresser à la ville. Alors, je vais avoir deux questions avant que Léa puisse s'exprimer. La première, c'est pourquoi ? Pourquoi s'intéresser à la biodiversité urbaine ? Finalement, les conurbations urbaines sont des créations humaines qui sont avant tout là pour l'espèce humaine. Pourquoi se soucier des autres compartiments du vivant ? C'est une question volontairement provocante, mais quel est le sens qu'on peut lui donner ?
Alors, il y a, à mon sens, deux angles à avoir. Le premier, c'est que je vais reprendre un très joli mot de Vincent Després, qui dit que, éthologue et philosophe, qui dit que l'homme est un animal qui veut vivre à proximité d'autres animaux. Donc, il y a une proximité réelle entre les espèces et nous sommes une espèce. L'autre chose qui est moins poétique, c'est que nos conurbations et nos espaces urbains aujourd'hui grignotent de l'espace. Cet espace, il est grignoté sur celui occupé au préalable par des espèces végétales, animales, ou des espaces naturels, agricoles. Aujourd'hui, la ville s'étale, l'humain s'étale un peu, et de fait, il grignote sur le terrain des autres. L'intérêt, et je reviens à ce que disait Vincent Després, c'est que plutôt que d'entrer en concurrence, il faut rentrer en cohabitation. Et s'intéresser les uns aux autres.
Très bien.
Juste pour rajouter, parce que du coup, tout a été dit, l'urbanisation, puisqu'on parle de la ville, on est en train de parler d'une des causes majeures de l'érosion de la biodiversité.
Oui. Parmi les cinq grandes pressions, on a le fameux...
Habitat.
Voilà.
Et là, on fait référence au changement d'usage des sols.
Voilà, le changement d'usage des sols. Il faut le traduire.
Pardon.
Voilà,
véritable problème.
Oui.
Mais on peut aussi voir ça sous un autre prisme. C'est-à-dire que la biodiversité des villes est aussi une solution. C'est-à-dire qu'à travers la biodiversité qui existe dans nos villes, même à Paris, j'ai quelques chiffres. Le dernier inventaire que j'ai, c'est 32 espèces de mammifères, 761 types de plantes à fleurs, 166 espèces d'oiseaux, 36 espèces de poissons, 1000 espèces d'invertébrés. Ça fait quand même pas mal de monde. Et tout ça, c'est de la vie, c'est de l'espoir, et c'est pas mal de beaux messages qu'on peut faire passer. La biodiversité en ville est extrêmement importante.
Et une espèce d'énervé qui est le parisien, qui peut se conjuguer aussi au féminin. Plus sérieusement, vous venez de citer Vincent Després, l'homme est un animal qui cherche à entrer en contact et à vivre avec d'autres animaux. C'est très vrai, probablement. Nous avons une fameuse attraction pour le vivant, la biophilie, pour reprendre ce que nous dit, ce que nous disait Wilson, qui est un des pères de la biodiversité. Cette hypothèse de biophilie selon laquelle bio, le vivant, philie, l'amour de tous les êtres humains seraient attirés par la nature, quelle qu'en soit sa forme. Néanmoins, Léa Mosconi, présidente de la Maison de l'architecture d'Île-de-France, qui est co-commissaire avec Henri Bonny de cette exposition Paris Animal. Livre, parce que j'avoue, je n'ai pas encore vu l'exposition, il faut être tout à fait honnête avec nos auditrices et nos auditeurs et vous qui êtes là avec nous, livre extrêmement documenté. Vous abordez un thème que plusieurs auteurs ont aussi documenté, ce sont les rapports complexes entre l'humain et l'animal, et en particulier dans la ville, à la fois des rapports d'attraction, mais aussi d'aversion, à la fois l'accueil du sauvage, l'accueil en bon équilibre du domestiqué, et puis ce qui aujourd'hui fait scandale, qui est à la fois fascinant. J'ai fait ouvrir et parcourir ce livre par des enfants, et les pages qui sont marquées ici, pour une partie, ont beaucoup trait au cirque. Et aujourd'hui, on remet en cause la domestication ou la domination plutôt qu'on peut avoir sur l'animal. Vous n'éludez pas le sujet du sacrifice animal avec les stigmates que nous en gardons, notamment architecturaux, avec la Villette qui a gardé le bâtiment des abattoirs, une partie en tous les cas. Bref, cette histoire, elle est riche et complexe. C'est une gageure que de vous demander de la résumer, mais nous le faisons quand même. C'est le principe de ces émissions pour vous donner envie d'aller plus loin. Léa, en quelques mots, quelles grandes étapes et quelles grandes lignes directrices pouvons-nous dessiner de ce rapport entre les citadins et l'animal?
Alors, l'histoire qu'on a tenté de construire, on a voulu la montrer depuis le début de la construction de la ville, et on pourrait, en caricaturant un peu, y voir quatre grandes périodes. Il y aurait une grande période qui commencerait avec le gallo-romain, qui se terminerait avec le médiéval, qui serait marquée par une forme de promiscuité des corps animaux et humains, et par une forme d'animalité des rapports. Animalité des rapports, et là je vais juste faire une toute petite anecdote. Par exemple, à un moment donné, après la guerre de 100 ans, il y a des attaques de meutes de loups. Il y a une meute qui fait très peur, qui est menée par un loup qui s'appelle Courtois et qui va dévorer 14 Parisiens en une semaine. Ah oui. Les Parisiens, ils vont descendre en groupe et ils vont prendre des pierres, ils vont combattre les loups à coups de pierre. Donc animalité des rapports très forte et forme de promiscuité, parce qu'on élève les bêtes dans la ville, dans le tissu de la ville, parce que la mise à mort se fait aussi dans la ville. Et donc, voilà, promiscuité des corps. Et puis, il y a une deuxième période qui s'ouvre, on va dire, avec la Renaissance et qui court après, qui s'affirme avec l'industrialisation. Une période qui met en ordre les corps animaux. On est à un moment où on a besoin des corps animaux parce qu'on a besoin aussi de l'élevage et on a besoin de l'énergie animale, des chevaux, ce sera la ville aux 80 000 chevaux et autres. Mais l'industrialisation vient mettre de l'ordre dans cette présence animale. Et puis, il y a une période aujourd'hui qui est marquée par une redécouverte, une attention du vivant, et puis une dernière période prospective où on propose plusieurs idées.
Donc, quatre grandes étapes. La première, la promiscuité avec cette affaire des loups très sanglante me fait m'interroger. Je ne sais pas si vous l'abordez, en tout cas je ne l'ai pas lu, sur les paroles de Serge Reggiani, « Les loups sont entrés dans Paris », parce que j'ai toujours cherché à avoir l'interprétation de cette chanson. Semble-t-il, ça pourrait être une invasion allemande, mais il y a d'autres interprétations, et peut-être que Reggiani faisait référence à cette période. Aujourd'hui, vous parlez d'aujourd'hui et de la prospective, donc les étapes 3 et 4. Comment est-ce que vous qualifiez l'époque? C'est une question très bateau, mais à un tournant. Qu'est-ce qui change par rapport à, je citais, la remise en cause d'un certain nombre de pratiques d'abattage, du cirque, ou en tous les cas, le fait de les connaître et de les mettre en avant peut heurter. Quels sont les pivots, les choses qui évoluent, que vous avez notées à travers vos nombreuses recherches?
Alors déjà, il y a la prise de conscience écologique qui amène avec elle le fait que pour que la ville soit vivable, il faut qu'elle soit vivante. Et donc un regard aussi peut-être très anthropocentré, hein, on se tourne vers le vivant parce qu'on sait qu'il va falloir aussi faire avec ces vivants. première chose. Et puis en se tournant vers ces vivants, en les regardant, en tentant de les comprendre, et ben finalement on re-questionne la moralité de nos rapports. Et en effet, des choses qui semblaient complètement banales, par exemple les dispositifs de captivité dans les eaux, des cirques et autres, tout à coup là aussi sont un peu interrogés, parce que si on cohabite, et ben on est dans des relations normalement à peu près symétriques. Et est-ce qu'on est dans une relation symétrique quand on est dans le cadre d'un zoo ou d'une ménagerie? Et ben, peut-être pas totalement, en tout cas ces sujets sont ouverts, alors qu'en effet ils n'étaient pas ouverts de cette manière-là il y a encore quelques dizaines d'années.
Alors effectivement, ce débat, on parlera évidemment tout à l'heure, restez avec nous dans la deuxième partie, des rapports entre l'animal, le végétal et l'ensemble des habitats urbains, puisque c'est aussi le fil conducteur de toutes ces émissions. Mais vous indiquez que cette prise de conscience est forte, et effectivement on peut se réjouir peut-être, notamment par des petites tribunes comme celle qui nous est proposée aujourd'hui, mais de nombreuses autres prises de parole, du fait qu'on rentre un tout petit peu plus dans le détail du tissu du vivant. Et il y a un débat qui est très fort, et là je m'adresse à Clémence et à Fabien. L'animal peut avoir de multiples entrées, entre guillemets, et peut-être, Fabien, on a beaucoup entendu de choses sur l'apiculture urbaine. 2010, année internationale de la biodiversité, c'est formidable, installons des ruches en ville. Et je me souviens du nombre de lignes des journaux indiquant les abeilles vivent mieux en ville qu'à la campagne. Mon premier point, c'est d'abord là-dessus, c'est sur cette relation entre ville et campagne. Et puis, vous me voyez venir, évidemment, vous m'entendez venir, sur le lien entre, d'un côté, le sauvage et de l'autre, le domestiqué, pour ne pas dire, lorsqu'il s'agit d'apiculture, l'élevage et les systèmes agricoles. Fabien, sur ce sujet précis de l'apiculture urbaine d'une part versus l'apiculture des champs, et puis justement nous mettre en perspective, vous avez cité les pollinisateurs d'une manière générale, l'abeille que l'on connaît, qui produit du miel, et l'ensemble des autres espèces.
Alors Pierre, vous avez décidé de me fâcher avec ce sujet.
Non, pas du tout.
Non, je, c'est une blague. C'est un sujet extrêmement important. Et même s'il peut être fruit de nombreux débats, et parfois des débats un peu, on va dire, très animés.
Un peu animaux, oui.
Animaux, ouais. Exactement. C'est un sujet essentiel de parler de... Quand on parle d'apiculture rurale et d'apiculture urbaine, quand on parle d'insectes pollinisateurs dits solitaires, je préfère ce terme, oui, sauvage, ou pollinisateurs social, en fait, on fait exactement... C'est le même rapport. Mm-hmm. On est en train de mettre en compétition des, oui, univers qui ne doivent pas l'être. Juste pour revenir sur cette question de compétition entre sauvage, solitaire, mm-hmm, domestique et social. En fait, l'histoire, elle a commencé il y a 150 millions d'années. Okay, il y a 150 millions d'années, naissait la plus belle histoire d'amour que le règne du vivant a créé. C'est l'histoire d'amour entre les plantes à fleurs et les pollinisateurs. À ce moment-là, les pollinisateurs, tels que les premières abeilles, étaient des abeilles dites solitaires. Ok. Ensuite, on passe 100 millions d'années, on se rapproche de cette cinquième extinction de masse, mm-hmm, dont on a parlé tout à l'heure. Donc vous avez plus de 90% des espèces vivantes qui disparaissent. Donc il reste uniquement les petites espèces de mammifères, quelques invertébrés, etc., dont certaines abeilles. Les températures sur la planète baissent drastiquement, etc. Mm-hmm. On est obligé de trouver des solutions. La vie est obligée de trouver des solutions pour évoluer.
Elle s'adapte. Tiens, ça résonne avec ce qu'on vit. Exactement. Aujourd'hui.
Ok. Donc ces fameuses abeilles solitaires, donc les abeilles, on va dire, primaires, ont dû trouver des solutions pour affronter ces nouvelles péripéties. Et la solution qu'elles ont trouvée, c'est de vivre en colonie, mm-hmm, pour s'apporter en fait mutuellement de la nourriture, de la chaleur et du réconfort en quelque sorte. L'être humain, il est apparu quelques 60 millions d'années après. Donc, il y a 3 millions d'années, Homo erectus apparaissait. Donc, si les abeilles, je prends l'exemple des abeilles, mais on pourrait parler d'autres insectes, se sont sociabilisées, ce n'est pas pour faire plaisir aux êtres humains. Les abeilles sociales restent des insectes sauvages. Mm-hmm. Okay, ce sont des hyménoptères. Okay. Je vous mets au défi d'essayer de domestiquer une abeille, un insecte. Oui. Ce n'est pas possible. Ok. Pour revenir à cette question, pour faire très très vite, entre l'apiculture des champs et l'apiculture des villes, en fait, quel que soit l'endroit où vous désirez travailler avec la nature, cohabiter avec la nature, il faut un écosystème qui le permette. La nature, un insecte tel que l'abeille par exemple, pour vivre, c'est comme un être humain. Elle a besoin du gîte, du couvert et d'un environnement sain. Okay ? Si vous prenez une colonie d'êtres humains et vous les positionnez au milieu du Sahara, je pense que cette colonie va avoir beaucoup de difficultés à se développer, à s'épanouir, etc. Bah, c'est exactement pareil avec les abeilles et d'autres êtres vivants. Donc il faut que... On peut faire de l'apiculture en ville, mais il faut que l'écosystème soit favorable.
Soit favorable, c'est tout. Exactement. Et vous pointez là une notion extrêmement importante dans tous les propos qui ont trait au vivant, et c'est bien aussi ce qu'on essaie de partager, c'est la notion d'équilibre entre les différentes espèces. Et merci beaucoup pour cette mise en perspective historique, puisqu'aujourd'hui on parle beaucoup d'inspiration, de bio-inspiration. La vie des colonies est aussi auscultée sous toutes les coutures par les scientifiques et parfois de manière plus ésotérique, mais en tous les cas pour apprendre de cette coopération entre les abeilles d'une même colonie. Simplement pour nos auditrices et nos auditeurs et vous qui êtes ici avec nous, une mise en perspective, le nombre d'espèces en France à ce jour qui sont d'abeilles sociales, entre guillemets, et des espèces plutôt solitaires. On est en rapport de 1...
Alors, nous, on parle d'espèces globales.
Oui.
Donc, en Europe, vous avez à peu près 2000 espèces d'abeilles. Mm-hmm. Sur le territoire
national,
on est plutôt sur 1000 espèces.
Oui.
80% de ces espèces sont des espèces solitaires.
Voilà. Très bien. Mais c'est important d'avoir cette mise en perspective. Clémence et Léa, avant une petite pause et de parler justement de ce règne des plantes à fleurs et du lien entre la faune et la flore et le gîte et le couvert, et le gîte interpelle aussi l'architecture, il y a aussi parfois des espèces qu'on aimerait accueillir, mais d'autres qui nous sont moins agréables. On pense aux moustiques, mais je pense tout simplement aux rats ou aux surmulots dont on parle souvent. Alors c'est une marotte, hein, à Paris c'est comme la propreté, vous regardez toutes les campagnes électorales depuis 1977, la première du nom à Paris, municipale, vous avez toujours ces sujets qui reviennent. Néanmoins c'est une vraie question. On pense à Ratatouille, ce fameux dessin animé qui a rendu sympathique le rat, mais on a quand même du mal avec certaines espèces. Comment est-ce que ça se joue, ce rapport entre l'indésirable ou le non désiré, et puis des espèces qu'on aimerait à tout prix accueillir, voire collectionner parfois, ce qui peut aussi déséquilibrer un certain nombre de choses par rapport à ce que nous indiquait Fabien?
Alors, sur les rats, nous, on a traité cette question au moment d'Haussmann, au milieu du 19e siècle, où on voit que dans une ville qui est hyper autoritaire, où tout est tenu, tout est en ordre, en fait, on va créer les égouts. L'ingénieur Belgrand va créer les égouts et on va donc créer un milieu ultra favorable au développement du rat. Et en fait, une campagne va être mise en place avec des chasseurs de rats. On va dire aux Parisiens, si vous nous rapportez des queues de rats, on vous donne 3 francs. Les Parisiens vont se mettre à faire des élevages de rats pour donner les queues de rats. Et en fait, on se rend compte tout le long de l'histoire qu'on a tracée que déjà au 1er siècle, il y a des rats. Et que tant qu'il y a des urbains, il y a des rats. Et que dans la ville, l'enjeu, selon moi, c'est de trouver les dispositifs pour réussir à cohabiter, et notamment cohabiter avec l'indésirable. Et quelque part, les rats, quand ils sont sous terre, quand ils sont à distance, sont dans une relation qui est beaucoup plus supportable. Et c'est l'état de sidération que provoque la bête qui s'approche qui est violente. Et donc, moi, je pense beaucoup, mais je parle depuis mon statut d'architecte et urbaniste, aux dispositifs spatiaux, architecturaux, qui permettent cette cohabitation avec ceux que l'on dit indésirables.
Mais c'est aussi très intéressant de parler des égouts, puisque... C'est reconnu, sauf erreur de ma part, et certains pourront nous écrire si tel n'est pas le cas, mais les rats participent dégradation d'un certain nombre de déchets dans les égouts. Donc cet habitat les a favorisés, mais ils en sont aussi
les
compagnons.
Et dans certaines villes en Angleterre, il n'y a pas assez de rats pour justement mettre
en terme. Le développement du rat, il ne manque pas de syllabes. C'était très joli, le développement du rat. Clémence, une petite réaction avant notre pause.
Oui, je pense que... Ce qu'il faut rappeler sur ces espèces, d'une part, et c'est ce que Léa a évoqué, ces espèces, elles sont là et en grand nombre parce que ce sont des espèces qu'on dit adaptables ou opportunistes. Ce sont tout simplement des espèces, que ce soit des mammifères, des oiseaux, des invertébrés, des insectes, qui ont cette capacité d'adaptation que Fabien évoquait tout à l'heure. Donc déjà, ce sont des espèces qu'on peut qualifier, dont on peut souligner la remarquable adaptabilité, c'est quand même à souligner. Par ailleurs, je pense que tout ça est quand même affaire de compréhension. Ces espèces sont là, et Léa l'a de nouveau rappelé, on peut également citer le cas du pigeon biset, que les Parisiens adorent. Le pigeon bisé est à la base un pigeon qui a rendu de nombreux services, qui a été le messager pendant la Grande Guerre notamment, qui était élevé pour ça, qui a été essentiel à la vie, à la communication pendant de nombreuses années. Et le pigeon bisé est là parce que les hommes, les humains l'ont voulu et l'ont choyé, l'ont soigné. Aujourd'hui, le pigeon est bisé. Alors donc, à l'origine, il est là parce qu'on l'y a amené, et aujourd'hui, il reste parce qu'il s'adapte vite. En fait, je pense qu'il faut... L'essentiel, c'est la compréhension et la médiation. Faire comprendre aux gens d'où viennent ces espèces, ce qu'elles font là, et souvent, elles sont là parce qu'on a créé des milieux, nous, humains, pour les accueillir, parce qu'elles nous rendaient des services, et elles restent, parce qu'elles ont des facultés d'adaptation probablement supérieures aux autres. Et ça, c'est important de l'expliquer, de le comprendre pour mieux cohabiter.
Merci à tous les trois. Nous venons d'aborder de manière apaisée les rapports parfois rugueux entre l'animal et l'être humain en ville. Nous avons cité la notion d'écosystème qui est extrêmement importante et d'équilibre entre ce qui est désiré et ce qui l'est moins, entre ce que nous apprivoisons ou nous tentons de domestiquer, parfois en groupe et pas de manière individuelle, et puis le sauvage, le spontané, qu'il soit solitaire ou social. Nous allons aborder plus en détail la manière d'habiter la ville et notamment la cohabitation et les bons équilibres entre le gîte, le couvert et les animaux, puisque très bientôt a lieu la semaine des fleurs pour les abeilles, citons-la, du 9 au 18 juin. Et Fabien, vous nous en parlerez tout à l'heure, c'est en partenariat avec Valor, la semaine des fleurs pour les abeilles. Alors avant de reprendre cet échange, une pause musicale en forme d'hommage. C'est le cri du papillon de Jean-Louis Murat, paru en 2003 dans l'album Lilith. Le papillon, tiens, à qui l'on demande rarement s'il est sauvage ou d'élevage. Il est d'ailleurs, hélas, assez rare qu'on le voie voler. Il faut pour cela pratiquer la médiation, comme vous venez de le dire Clémence, les sciences participatives comme l'excellent SPIPOL, le suivi photographique des insectes pollinisateurs, qui invite chacun à se poster, et je prends volontairement un ton plus bas et plus lent, 20 minutes devant une fleur, c'est le paradis, et prendre une photo, en photo, tout ce qui bouge, tous les animaux qui viennent se poser sur cette fleur. Le papillon, au battement duquel on prête des vertus proches de l'agronome René Dubos, dont la devise était « agir local, penser global ». Il ne s'agit pas ici, chez Murat, exactement de battement, mais de cri. C'est l'animal, Murat, l'Auvergnat, qui résonne. Un titre que j'ai écouté en boucle des mois durant, car cette année-là, je devenais plus que jamais végétal, en dédiant une partie de mon activité, en l'occurrence alors mes études, au règne chlorophyllien. Je découvrais Murat, l'animal auvergnat, énigmatique voisin, né 11 jours, je l'ai appris, dans Libération, après ma mère, à quelques kilomètres seulement de notre Loire natale, séparé uniquement par les monts du Forêt. C'est un titre rythmé et un clip gentillet, un road trip à travers les routes du Puy-de-Dôme. Je pense un rien ironique quand on connaît un tout petit peu l'œuvre de Murat. Ce titre a tout d'un tube. Pour celui qui répétait pourtant, je le cite précisément, « Le succès, c'est le pire truc qui pourrait m'arriver. Je ne suis pas fait pour lui, même humainement. Alors salut l'animal !»
Et des poissons, puis tout toujours, il opère dans toute imagination. Il t'arrache les bruyères et tu connais même pas son nom. Croix de bois, croix de fer, oui, c'est le cri du papillon. Pas de larmes, ça ne dérange pas les passants. Ce petit rien qui empire, je ne crois pas personne entend. Il t'arrache les bruyères, mais tu connais même pas son nom. Au croix de bois, croix de fer, oui, c'est le cri du papillon.
Papillon, fauve, oiseau, rat, nous sommes au cœur de la ville animale, de ses rapports avec l'être humain, cette espèce qui veut vivre auprès d'autres animaux. Vous le disiez, Clémence, tout à l'heure, citant Vinciane Després, nous avons eu l'animal, l'ours, comme on le surnommait Auvergnat, Jean-Louis Murat, avec le cri du papillon. On pense bien à lui, d'où il nous regarde, où qu'il soit. Nous avons abordé ces premiers sujets et les prémices d'une notion qui nous est chère, c'est comment habiter la nature, comment avoir une meilleure cohabitation entre l'espèce humaine et les autres espèces. Et vous avez cité tout à l'heure la notion d'écosystème, et notamment, j'en viens à une question qui est celle de l'habitat. Tout à l'heure, Fabien nous expliquait l'émergence des premières espèces d'abeilles sociales, bien antérieures à celles de l'espèce humaine. Et finalement, une ville, une agglomération, un village, c'est une organisation sociale qui se traduit physiquement dans l'espace par un habitat. Clémence, qu'est-ce qu'on peut dire par exemple d'espèces d'abeilles qui habiteraient quelque part? Je crois qu'il y a certaines abeilles du sol dont le mot pour désigner leur habitat est extrêmement explicite par rapport à notre propos.
Oui, absolument, il y a des espèces d'abeilles, d'ailleurs beaucoup d'espèces d'abeilles vivent dans le sol et creusent le sol pour y pondre et s'y installer. C'est fascinant à regarder. Et en général, elles s'installent dans des zones de sol nues. Mmh. Et cet ensemble d'abeilles pourtant solitaires, hein, qui ne sont pas organisées comme les Apis mellifera qu'on connaît, ça s'appelle une bourgade.
Une bourgade, elles comme le bourg.
Absolument.
Voilà, c'est un village.
Un village d'abeilles.
Donc c'est très très beau. D'un point de vue architectural, justement, Léa, dans votre ouvrage, vous présentez différentes manières de cohabiter entre l'humain et l'animal, mais aussi des habitats. Alors, nos amis écologues et représentants de la plus grande association de protection de la nature en France nous parleront d'habitat au sens écologique, mais stricto sensu, comment est-ce que, à travers vos recherches, vous avez vu que l'habitat parisien, en l'occurrence, pouvait être favorable à l'animal et qu'une cohabitation heureuse pouvait s'installer entre espèces?
Alors, quand on a fait nos recherches et qu'on a échangé avec quelques ornithologues, on s'est rendu compte que le bâti haussmannien était assez favorable dans ses fissures, ses anfractuosités, ses conduits de cheminée ou autres. Mais en revanche, on s'est aussi rendu compte, et en tant qu'architecte, ça nous a un peu ébranlé, que finalement, tout le travail qui est fait pour s'emparer de la question énergétique par le biais de l'architecture, donc à savoir la rénovation thermique par l'extérieur avec, la rénovation thermique avec l'isolation thermique par l'extérieur, donc des façades lisses, pour le dire un peu simplement, ces façades lisses, elles sont complètement inappropriées à l'accueil du vivant. Et nous, ça nous pose une question, parce qu'en fait, une approche écologique, eh ben, elle mène la question des matériaux, la question énergétique, la question de l'accueil du vivant, et on se retrouve avec un paradoxe, avec des villes de plus en plus lisses, pour ces questions énergétiques et aussi à cause des ravalements de façades. Et finalement, donc, on se retrouve à devoir faire face à ce paradoxe. Et donc, il y a aussi, pour des architectes qui ont été très marqués par le mouvement moderne, avec des architectures lisses et blanches sous la lumière, aussi accepter que ce qui se détériore, ce qui se fissure, ce qui montre l'usage du temps, ce qui montre une rugosité, une dimension même animale de l'architecture, et c'est ça aussi qui est accueillant. Et donc, c'est aussi accepter une forme de... Alors, lâcher prise, le mot est un peu... peut-être pas approprié, mais c'est aussi accepter que par moment, on contrôle, on ne maîtrise pas tout, et qu'à l'échelle urbaine, les friches sont riches, à l'échelle architecturale et des façades, et des façades un peu rugueuses et abîmées sont accueillantes, et c'est important de les maintenir.
Alors c'est comment on organise le désordre. J'ai en tête une étude, Clémence, sur les oiseaux à Paris et en Île-de-France, qui démontrait un petit peu ça, c'est-à-dire que plus tout est propre et rangé, plus on a ordonné la ville, et y compris les bâtiments, pour diverses raisons, moins nos amis les oiseaux sont nombreux et trouvent finalement d'habitat. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres à ce sujet ?
Oui, absolument. Donc, c'est des études qui sont faites depuis très longtemps et qui sont des sciences participatives. Ça s'appelle le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs. Et pour les espèces du bâti, ces espèces qu'on dit inféodées au bâti, tout simplement, elles ont besoin du bâti pour s'installer et loger elles aussi. Ces espèces inféodées du bâti sont en franche et nette régression. Il y a le martinet noir que vous voyez en ce moment dans le ciel parisien où on volait très haut et sifflait très fort. Le martinet noir est baissé de 46% sur les 20 dernières années. L'hirondelle de fenêtre, elle, a baissé de 23% ces dernières années. Et c'est exactement... Il y a plusieurs raisons, évidemment, mais Léa les évoquait à l'instant. Lorsque vous rénovez vos volets ou vos coffres de volets, vous délogez les hirondelles de fenêtres. La loi ne vous le permet pas, mais ça arrive malheureusement. Ça déloge également des petites chauves-souris, des chiroptères. Donc toutes ces espèces inféodées du bâti perdent de l'espace, perdent de l'habitat, perdent du logement. Finalement, donc, il y a une crise du logement pour ces espèces également. Et je reviens juste sur ce que disait Léa, ce qui est très intéressant également, c'est toute cette tendance de l'architecture en ville avec ces grandes surfaces vitrées qu'on a souvent trouvées esthétiques et magnifiques,
absolument,
sont une vraie catastrophe pour les oiseaux qui les percutent. Et la mortalité suite à chocs vitrés est extrêmement importante dans la ville. Donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut avoir en tête, aménager, penser.
Alors, on parle de plus en plus de construire la ville sur la ville, de rénover. Effectivement, ça n'est pas toujours heureux, mais il existe des solutions, notamment pour les vitrages, pour éviter, par exemple, l'effet miroir, qui est assez terrible, ou pour ne pas être dans une transparence totale qui peut laisser entrer la lumière pour notre confort, nous, êtres humains qui vivons à l'intérieur, et aussi avoir une vue sur les arbres, comme ici même dans ce mail des Tuileries, et puis ne pas être percuté par les oiseaux, ne pas être un leurre. Justement, Clémence, vous dirigez le programme Refuge à la LPO. D'un point de vue pratique, qu'est-ce que les collectivités, les entreprises et les citoyennes et les citoyens peuvent mettre en œuvre pour offrir plus de gîtes à nos amis les oiseaux et plus largement l'ensemble des espèces animales ?
Oui, tout l'objet du programme Refuge, c'est d'accompagner les citoyens pour aménager leurs espaces extérieurs pour l'accueil de la biodiversité de proximité et du sauvage. Aménager, c'est végétaliser, planter, semer, de préférence avec des espèces non pas exotiques, mais de préférence avec des espèces florales, végétales, endémiques. Végétaliser, pourquoi ? Parce que ça va ramener des insectes qui vont eux-mêmes ramener des oiseaux qui les consomment. Tout ça est une petite chaîne que chacun peut faire, et le programme Refuge, par exemple, il y a plein de possibilités, mais ça est aussi adapté au balcon, par exemple. La taille de l'espace n'importe pas, c'est sa variété, sa diversité. En ville, ça peut apporter du bonheur, ça peut apporter de la fraîcheur, ça peut apporter de la vie.
Donc on peut agir tous à son échelle et vous avez cité, on parlait du gîte, vous avez tout de suite cité le végétal.
Oui.
Je voulais aborder le couvert, mais au fond c'est vrai, c'est les deux,
oui.
C'est le gîte et le couvert. Fabien, justement, à l'OFA, l'Observatoire français d'apidologie, vous travaillez beaucoup sur ces sujets, vous l'avez dit, c'est votre préoccupation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement à travers vos actions, notamment, je vais vous laisser parler de la semaine des fleurs pour les abeilles, qui est la partie visible de cet iceberg d'actions que vous menez en œuvre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour offrir le gîte et le couvert, notamment par le végétal, au règne animal, en ville et puis plus largement dans les territoires?
Alors, je vais malheureusement répéter tout ce qu'a dit Clémence, mais c'est exactement ça. Vraiment, il y a un véritable objectif d'apporter un maximum de trames vertes au sein des grands centres urbains qui, à l'intérieur de ces trames vertes, apportent la majeure partie du temps le gîte et le couvert, en tout cas, quand je parle moi personnellement, des invertébrés. Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure, la nature a besoin d'aspérité pour s'épanouir. Les aspérités, on peut les retrouver dans des paysages, on peut les retrouver dans des constructions architecturales, et on peut aussi les retrouver dans des prairies mellifères. J'en reviens un petit peu à l'opération des fleurs pour les abeilles.
Mellifères, pour tout le monde, expliquez-nous.
Alors, une fleur mellifère, une plante mellifère, c'est une plante qui produit du nectar. Et ce nectar est extrêmement intéressant pour un certain nombre d'insectes, et plus particulièrement pour les abeilles, puisqu'on parlait des abeilles. Donc les prairies mellifères, qui sont magnifiques plantes à fleurs finalement, hein, dont on parlait tout à l'heure, sont des superbes refuges en fait pour tout un tas d'insectes et qu'on peut très très facilement semer, intégrer dans un paysage urbain. C'est vraiment très très simple, ça demande juste de l'espace. Et cet espace en plus, on va le sanctuariser, on va l'offrir à la nature, on va se l'offrir à nous-mêmes finalement. Et on va laisser un peu d'espace aux animaux pour vivre. Et donc, du coup, cette opération des fleurs pour les abeilles, c'est exactement ça son objectif. Elle existe depuis 7 ans.
7 ans déjà.
Ouais, c'est partir du constat que pour nos chères abeilles, puisque c'est un insecte assez totem, à travers les abeilles, on parle de
toute
la diversité,
oui.
Elles manquaient de ressources alimentaires, elles manquaient d'espace pour vivre, pour se reproduire, etc., et encore plus dans les centres urbains. Qu'à travers cette petite action, bon, j'ai le petit sachet avec moi, hein, qui est un petit sachet de graines mellifères, à travers cette petite action de semis, finalement, on apporte un petit peu une formule clé en main à tout un tas d'insectes, et en plus, on a l'impression quand même de faire un joli geste pour la nature. Donc ça, c'est vraiment une opération grand public pour sensibiliser les écoles, les collectivités, les entreprises à ce sujet qui me paraît extrêmement important.
Effectivement, vous avez dit que la taille de l'espace, et notamment ici de la prairie, est importante. Il ne faut pas que ce soit trop petit. C'est un sujet dont nous parlons régulièrement sur nos plateaux. On va très bientôt en parler au sujet de la renaturation et de l'adaptation des villes au changement climatique. La nécessité de communs, qu'ils soient publics ou privés, d'espaces ouverts en ville, qui sont extrêmement importants pour nos amis animaux, pour toute la biodiversité, pour recréer ces trames, pour qu'il y ait une taille critique, on va dire, suffisante, mais aussi pour notre santé. Notamment en termes d'architecture du paysage, c'est extrêmement important. Mais je signale aussi, et Clémence le disait, la balconnière, la petite jardinière, ça fonctionne très très bien avec les fleurs pour les abeilles. Il faut vraiment ne pas avoir la main verte pour foirer son semis, pour le dire de manière très triviale. Donc courez, cherchez ces petits sachets de graines, faites-les en famille, les petits comme les grands, et ça fonctionne vraiment très bien. Fabien, je voulais vous interroger sur une chose, parce que au fond, ces fleurs, elles vont avoir une période de floraison dans l'année qui est certes étalée, mais qui ne couvre pas toutes les saisons. Or, on a autour de nous, et les paysagistes sont là, concepteurs et les jardiniers paysagistes, les entrepreneurs du paysage pour nous y aider, grâce notamment aux producteurs pépiniéristes, on peut couvrir l'ensemble des saisons. Et je crois qu'il y a un sujet qui n'est pas tant la quantité de fleurs à l'instant T, mais c'est un peu une comparaison entre un sprint et une course de fond, il faut aussi faire cette course de fond et c'est assez problématique de ne pas avoir de fleurs à certains moments.
Exactement. Cette opération, on est vraiment plutôt sur une opération de sensibilisation. Mm-hmm. On ne rentre pas sur la technicité du sujet. Par contre, en parallèle de ça, l'OFA travaille avec un certain nombre de collectivités, un certain nombre d'interprofessions du végétal, voilà, de tout un tas de partenaires, sur justement l'accompagnement d'une périodicité de plantation de semis en bonne intelligence, avec les bonnes essences, pour que toutes ces semences en fait puissent être étalées dans le temps au niveau des saisons pour apporter en fait régulièrement suffisamment d'alimentation et d'abri pour tout un tas d'insectes. Donc en effet, on travaille avec tout un tas de personnes pour faire en sorte que les plantations soient astucieusement plantées au bon moment, avec des essences extrêmement différentes, qui soient les plus résilientes possibles aussi avec les changements climatiques en cours. En prenant l'ensemble de ces informations, on essaye d'avoir quelque chose qui soit sérieux pour l'ensemble des insectes. Donc étalé sur le temps et en quantité suffisante.
Étalé sur le temps et en quantité suffisante, être proche du grand public, sensibilisé, vous le faites sans relâche à l'Observatoire français d'apidologie, à la LPO, et puis aussi à travers cette exposition Paris Animal jusqu'au 3 septembre 2023, et cet ouvrage qui lui est impérissable, puisqu'il nous est proposé en papier, une riche documentation Paris Animal. Avant de conclure, je voulais vous poser une question, peut-être pour élargir un peu le champ. Au fond, apprendre à cohabiter avec l'animal en ville, est-ce que ce n'est pas aussi un symbole d'altérité qui peut nous aider à accueillir l'autre, quel qu'il soit, y compris nos semblables, plus 4 degrés à l'horizon 2100. Si on suit les perspectives, pour le coup, des experts du climat, nous allons, nous-mêmes, probablement migrer. Qu'est-ce que vous pensez de ce rapport à l'animal comme étant un symbole d'altérité ?
Alors nous, dans l'exposition avec Henri Bonny, on tenait à ce qu'il y ait une vidéo de Gilles Deleuze, de A comme animal, dans lequel il explique combien en fait l'animal c'est une figure ambivalente de l'altérité et qu'en fait réfléchir à la cohabitation avec l'animal, ça nous pose aussi la question de réfléchir avec aussi la cohabitation avec les humains et ceux qui réagissent différemment, comment on cohabite avec l'autre quand il est différent. Et il y a cette phrase, nous, qui nous a beaucoup accompagnés de Donna Haraway, qui est « Nous devons apprendre au cœur d'un présent épais à bien vivre et à bien mourir ensemble ». Et en effet, cette question de l'animal pose une question de biodiversité, d'écologie et autres, mais aussi une question de cohabitation et d'altérité extrêmement forte. Et c'est ce qu'on a essayé de traduire en réfléchissant aussi à des inventions programmatiques, en pensant aussi à des questions de sensibilisation. Vous évoquiez différents dispositifs. Moi, il y a un dispositif auquel je crois énormément, c'est celui de la mare. La mare dans la ville, c'est un dispositif relativement modeste qui se met en place, qui n'est pas très coûteux, qui ne prend pas énormément de place et finalement qui raconte énormément de choses sur les insectes, sur la petite faune, sur l'attention des enfants dans un square face à la mare, aux usages complexes et hétérogènes au sein d'un square, justement. Et moi, je crois beaucoup à ces différents dispositifs qui nous parlent de cohabitation dans la ville et la mare en est un symbole, il me semble, très important.
Clémence.
Oui, sur l'altérité, je pense que tout ça est beaucoup à faire d'écoute et d'attention. Écouter vraiment littéralement avec ses oreilles, écouter la nature, mais écouter le vivant global et donc écouter ses voisins aussi et y être attentif. L'attention, c'est quelque chose de relativement simple quand on prend un peu sur soi et qui change énormément les relations qu'on a à la nature, à notre environnement et à nos semblables aussi. Donc voilà, écoute et attention.
Écoute et attention. Et Fabien, le mot de la fin, Fabien, ce n'est pas simple.
Ce n'est pas simple. Je pense qu'il est largement venu le temps de la réconciliation et de l'humilité vis-à-vis des prodiges de la nature.
Eh bien voilà, l'humilité, la même racine que humus. Nous aurions pu parler du sol, si important pour les abeilles, mais aussi pour un certain nombre d'espèces. Merci à toutes et à tous. Merci. J'espère que nous ne vous avons pas effrayé avec certains coups de griffe. Nos pattes étaient plutôt douces. Merci à chacune et à chacun. Merci Léa Mosconi. Je rappelle que vous êtes présidente de la Maison de l'Architecture Île-de-France et co-commissaire avec Henri Bonny de cette exposition et de cet ouvrage Paris Animal, histoire et récit d'une ville vivante. D'histoire, il a été question aussi avec vous. Fabien Kouachi, vous êtes directeur des opérations de l'Observatoire français d'apidologie. Et je rappelle, la semaine des fleurs pour les abeilles, c'est très bientôt, c'est du 9 au 23 juin, mais c'est aussi toute l'année. Nous, on sème, retenez bien cela, et c'est valable toute l'année. Et puis enfin, merci Clémence Le Rondeau de la LPO, et en particulier en charge du programme Refuge. Merci d'avoir trouvé refuge avec nous dans cette émission. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter cette émission et à y être ici en public que j'ai eu à l'animer. Nous parlions d'une extinction de masse, J'ai pour ma part une extinction de voix qui est probablement liée, et c'est un comble lorsque on choisit d'en faire son métier, au pollen et à la poussière. Donc j'espère que la pluie reviendra et que le miel que je goûte depuis hier avec beaucoup d'envie et en grande quantité saura démontrer les bonnes relations que nous avons avec nos amis les bêtes. Bonne journée à toutes et à tous. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.